13h16. On n'est pas au 93, on est à CJRP. On est le 13 août 1979. Bienvenue à l'émission Pour ou Contre. Et la question du jour aujourd'hui à l'émission Pour ou Contre, c'est pour ou contre le Botox? Pour ou contre le Botox 25226-670-9.
Pas sûr que le 25226 dans cette année-là,
non,
ça...
c'est vrai. J'ai été spoté.
Écrivez-nous par la poste. Puis... c'est un numéro de fax. Écrivez-nous par la poste. On va y revenir dans une semaine.
Mais non, je fais des farces. Mais le Botox, parce que la conversation s'est poursuivie pendant la pause. On parlait de top modèle avec la belle Brooke. Mais Brooke, oui, est belle, mais... est moins belle qu'il y a 5 ans parce qu'elle a beaucoup trop de Botox. À mon avis, à moi, là. Puis qui suis-je pour parler de ça? Je vous annonce, j'ai pas beaucoup de leçons à faire à quiconque là-dessus, là. Mais, puis j'écoutais cet été, j'en ai parlé un peu, Nico, puis j'ai plus que regardé, j'ai complètement trippé sur la série Big Little Lies de Jean-Marc Varley.
Ouais.
Mais Nicole Kidman, dans cette série-là, moi, j'ai toujours trouvé belle, Nicole Kidman. Ça a toujours été une de mes préférées. Mais dans cette série-là, elle est tellement botoxée que je me dis, pourquoi? Pourquoi se dénaturer autant? Moi, j'ai toujours trouvé que les femmes, en vieillissant, s'embellissaient. Contrairement à nous autres, les gars, en tout cas, on va parler pour moi, moi, je pense pas m'embellir en vieillissant, mais je trouve que les femmes s'embellissent avec les années. Quand ils pognent le 45, 46, 40, c'est peut-être parce que je vieillis moi aussi.
Ouais.
Moi, des rides chez une femme, des pattes de doigts,
je trouve ça ultra charmant.
Oui. Non seulement j'ai aucun problème, mais je trouve que ça rajoute du charme. Le Botox, tu parlais de Courtney Cox pendant la pause,
ouais.
Joe.
Meg Ryan, Courtney Cox,
Renée Zellweger.
Courtney Cox, t'as
Jennifer Aniston, elle commence aussi à...
Jennifer, par exemple. Elle prend pas de Botox. C'est 100% naturel, il n'y a aucune intervention.
Tu connais pas Jérôme avec sa Jennifer. Fais comme moi, puis réécoute régulièrement des épisodes de Friends, puis tu te rends compte que...
Mais regarde, bon exemple. Jennifer Aniston est bien plus belle aujourd'hui qu'à l'époque de Friends, avec sa babyface, à mon avis, là. Beaucoup plus belle en vieillissant.
Mais il y a aussi. Mais je trouve des fois, les hommes, là, on est aussi chanceux. En vieillissant, là, nous autres, ça nous va très bien, les petites pattes de doigts, les petits cheveux là, grisonnants, là, tu sais, les Grey Fox. Là. C'est difficile pour les femmes parce que tu as les petits standards de beauté hollywoodiens, la pression. C'est plus difficile pour des femmes qui avancent en âge d'obtenir des rôles de premier plan. Donc, je comprends qu'il y a cette pression-là, mais des fois, tu aurais juste envie de dire, tu sais, on vous trouve
belle.
Aussi, sinon
plus belle. Plus belle au naturel.
Tu sais, puis peut-être des fois, c'est dans le dosage aussi. Oui. Parce qu'il y a probablement des femmes qu'on a l'impression qu'ils n'en ont pas du tout.
En fait, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qu'on ne sait pas qu'ils en ont du
c'est
Botox.
C'est ça.
Parce
mais
que c'est bien fait.
Celle qui l'échappe.
C'est discret, c'est ça. Puis, mais tu sais, Nicole Kidman dans Big Little Lies, là, c'est parce que c'est plus elle. C'est-à-dire, il y a tellement de Botox qu'elle est comme plus là, là. C'est comme plus son visage qui est là, c'est plus... c'est vraiment, vraiment too much. Là. C'est vraiment,
mais il doit en avoir chez les hommes aussi. Moi, je regardais dernièrement Brad Pitt. Je comprends qu'il a toujours été beau bonhomme, là. Mais je suis pas certain que Brad Pitt, la peau est aussi lisse que ça, naturelle.
Ça se peut.
C'est... D'après moi, il y en a aussi qui nous passent une couple de petites vites là, chez les hommes.
Ouais.
Sauf que peut-être qu'ils s'injectent un petit peu moins les lèvres et tout ça, parce que tu c'est moins recherché. Ben, c'est souvent les lèvres, je trouve, que ça paraît. Ben, des fois, t'as les yeux, t'as l'impression qu'ils veulent plus fermer.
C'est là. D'abord les lèvres, effectivement, où on s'approche de plus en plus de la grenouille, là, tu sais.
Oui, exactement ça. Nico, avais-tu d'autres nouvelles cet après-midi pour
nous?
Absolument. Oui.
Un des... tu sais, on a quelques biographies musicales depuis quelques années. Il y a eu Queen, il y a eu celle de Elton John. Il y en a une qui est en préparation, a-t-on confirmé hier, dans le camp Osborne. C'est celle de Ozzy, mais la période avec Sharon. Donc, on va... enlever la période Black Sabbath. On ne la prendra pas en considération pour le film. On va commencer quand il s'est fait mettre dehors de Black Sabbath et qu'il a rencontré Sharon. Et c'est cette portion-là de sa vie qu'on va explorer dans la biographie. Qu'on dit qu'on veut pas que ce soit bien propre comme celle de Queen.
Plus Motley Crue.
Plus de Dirt de Motley Crue.
En même temps, si tu veux faire plus de Dirt Motley Crue, mais que tu oublies l'époque Black Sabbath, il me semble...
Ouais, tandis qu'elle mote une partie, effectivement. Mais bon, j'imagine que comme Sharon doit être impliquée dans le processus, ils ont peut-être dit que ça serait trop... Un, ça ferait un film trop long peut-être de s'arrêter sur tout ça. Et deux, c'est peut-être cette portion-là qui les intéresse d'offrir au public. Ou on aura peut-être un autre film plus tard.
Et que je vais avoir peur que l'acteur soit trop caricatural.
Ouais, ça va être tough, hein?
Parce que déjà, Ozzy, c'est un personnage, mais comment tu veux l'incarner sans tomber dans la caricature puis que ça devienne...
L'imitation poche.
Ouais, là, c'est ça. Ouais,
bien
ouais,
d'accord. Puis quelqu'un qui va y ressembler, mais qui va y ressembler dans l'attitude, dans la gestuelle aussi, pas juste physiquement. Non, ça va être quelque chose.
J'ai beaucoup, beaucoup aimé celui sur Elton John. Plus que sur
Moi
Queen.
Moi aussi.
J'ai vu celui de Queen, j'ai pas vu celui sur
Moi,
Elton John.
Moi, même celui sur Elton John... contrairement à ces autres biopics-là, là, m'a vraiment fait d'un redécouvrir la musique d'Elton John et apprécier beaucoup plus l'œuvre d'Elton John que ce que je ressentais avant.
Parce pour ceux qui n'auraient pas vu Rocketman, on intègre vraiment plus la musique d'Elton John dans la trame narrative du film. Et on va même raconter des bouts d'histoire, si vous voulez, ou commenter l'histoire d'Elton John à partir des paroles des chansons. Donc, ça fait plus comédie musicale typique que ce qu'on a vu avec Queen.
Mais vois-tu celui sur Queen? Tu dis que bon, tu parles de la musique plus intégrée dans celui sur Elton John, mais vois-tu Queen? Moi, je l'ai écouté avec mon fils. Ça lui a fait découvrir Freddie Mercury.
Bien sûr.
Puis quand il entend ça, c'est pas un film hyper poussé, là. Mais pour quelqu'un qui est pas un maniaque de musique, puis moi, mon fils, maintenant, il entend Queen à la radio. Ah, ça, c'est Queen. Freddie Mercury, as-tu fait ça avant telle autre tune? Ou, c'était quand même pas mauvais non plus comme film.
Non, c'était pas mauvais. Mais je pense que beaucoup de gens mêlent leur amour de Queen avec les qualités du film. C'est un film correct, où il y a beaucoup de raccourcis, où il y a beaucoup de fausseté, malheureusement.
Mais le comédien est bon. On parlait tantôt
le
de
comédien
la
est excellent.
D'incarner des personnages.
Mais
un
petit peu plus caricatural que celui qui a fait Elton John.
Exactement.
C'est celui qui a fait Elton John.
Il a été choisi par Elton John.
Son nom, il est excellent. Là.
C'est celui qui joue dans Kingsman.
Exactement. Et quand j'ai réalisé que c'était le même gars qui jouait dans Kingsman, j'ai pogné deux minutes. Là, parce qu'il a l'air tout jeune dans Kingsman. Mais je trouve qu'il l'a plus fait à sa manière, sans vouloir copier Elton John, tandis que c'est Malek, son nom, il me semble, son nom de famille.
Rami Malek.
Tu vois clairement que c'était un appareil qu'il avait pour avoir la même simulé la dentition de Freddie Mercury. C'était un petit peu plus caricatural. C'était très bon, là, mais un peu plus caricatural.
Taron Egerton, qui a incarné Elton John dans le film Rocketman. Bref, je vais être curieux de voir ce que ça va donner... Le film sur Sharon et Ozzy Osbourne.
Ça va être présenté où, ça, Nico, tu disais?
On n'a pas le studio encore. Ils ont juste dit que ça allait se faire, mais on ne sait pas sur quelle plateforme est-ce que ça va être en ça. Puis de toute façon, honnêtement, ce qu'ils annonceraient aujourd'hui, ça ne voudrait pas dire que c'est ce qui va arriver dans deux ans, six mois, parce qu'on ne sait pas encore. Là, la nouvelle que je vous disais tantôt de la réouverture des salles AMC, c'est déjà... C'est une excellente nouvelle pour l'industrie du cinéma parce que ça prend un effet d'entraînement. Les films sortent pas parce que les salles sont pas ouvertes. Les salles sont pas ouvertes, il y a pas de nouveaux films. Les gens y vont pas. Il y a beaucoup de gens, c'est d'ailleurs votre cas, qui m'ont dit que ça va prendre un gros film pour que je retourne en salle. Fait que là, faut que quelque chose débouche quelque part pour que la roue se remette à tourner.
Mais moi, c'est pas par crainte nécessairement de la maladie. Ça fait plusieurs années que je suis comme ça, Nico. T'sais, pour que je me déplace en salle, faut qu'il y ait un film vraiment que je veux voir en salle. Puis avec la manière dont on est équipé maintenant, là.
Hey, le premier biopic dont je me souviens, je ne sais pas, Nico, si ça rentre dans la catégorie des biopics, là, mais il m'avait traumatisé en plus, c'était le film sur The Doors. Qui était... Et je ne sais pas si
avec
ça a
Val
bien
Kilmer.
Vieilli. Ouais, je serais curieux de l'écouter parce que moi, ça m'a présenté The Doors à l'âge que j'avais. Puis même qu'après ça, quand je voyais des photos de Jim Morrison, j'étais comme, ben voyons, c'est pas Val Kilmer. Pour moi, Jim Morrison, c'était Val Kilmer, mais c'était un film qui était... C'était fucké, là.
Ben, comme The Doors.
C'était Oliver Stone qui a fait ça?
C'était Oliver Stone.
C'était Oliver Stone. Mm-hmm. C'était très teinté par le style d'Oliver Stone, de mémoire. Enfin, longtemps, je l'ai pas vu, mais de mémoire. Un qui était bon, c'était celui sur Jerry Lee Lewis. J'avais trouvé très bon.
Ah oui,
dans les biopics,
oui.
Avec comment il s'appelle
l'acteur? Dennis Quaid?
Dennis Quaid,
c'était
exactement.
Dennis Quaid, il était jeune, là.
Il était bon dans ça. Mais remarque, ça a peut-être mal vieilli, là. T'sais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce film-là.
Déjà qu'il marie sa cousine de 13 ans, ça passerait moins.
L'histoire est intéressante parce que Jerry Lewis, c'était pas... ça n'a pas toujours été facile, la carrière, non plus. Là. Ouais.
Great Balls of Fire.
Exactement, exactement. Ça.
Je me souviens de la scène où il est debout sur le piano, là.
Classique. Quand on pense à Jerry Lee Lewis, c'est ça. C'est cette image-là qui nous vient en tête. Puis, tiens, je vais terminer en vous disant que Un autre délai, alors qu'on vient juste de redémarrer le tournage de Mission Impossible 7. Un autre délai lié à un accident d'une cascade en moto qui a eu lieu. C'est pas Tom Cruise qui est blessé dans ce cas-ci, mais ça faisait 6 semaines qu'on préparait cette séquence-là. Et il y a eu la chaleur et tout ça a fait qu'il y a eu un incendie que la cascade a causé. Et on rajoute des retards à ce film qui devrait, en principe, paraître en novembre 2022.
Nico, tu m'as envoyé ce matin le cover de Sports Illustrated d'il y a 30 ans à peu près, jour pour jour. Tu sais que j'ai collectionne les covers de Sports Illustrated. Là. J'en ai chez nous dans des cadres.
Pas,
oui. Les cadres marquants, il y a des covers.
Des Pats, ça j'ai vu que
j'en ai dans la cuisine. Les Red Sox aussi. Tu peux les commander. Ils te les envoient par la poste. Là, parce que Sports Illustrated, souvent, c'est des superbes photos. Ils ont parmi les meilleurs photographes au monde. Là. C'est des photos extraordinaires.
Juste répéter ce que je viens de dire. Dans ta cuisine, oui. Tu as un cover de Sports Illustrated.
Oui, exact. Tu as remarqué ça. Hein? Oui. Mais j'ai pas Tom. Tant d'affaires de sport que ça dans ma cuisine. Pas
c'est,
tant.
C'est moins pire que les gens s'y attendent.
C'est moins pire que ce que les gens pensent. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent arriver chez nous et ils se disent « Landry, c'est sûr que c'est des affaires des Nordiques partout. » Ou des patriotes. J'ai quelques affaires. Ouais,
j'en
disais
pas une coupe, moi.
Mais pas tant. Tu sais, c'est discret.
Plus
c'est discret, Joe.
Plus serait pas loin d'être trop.
Mais c'est discret quand même, là. Avoue, là. Avoue que je suis pas
discret partout. C'est pas over the top, mais c'est ouais. Pas discret,
ben,
là.
Même, je sais pas, je te l'ai déjà compté.
T'as une coupe d'affaires.
Mais une fois, il y a un journaliste de. C'était-tu de la BBC? Il me semble que c'était un gros média international, OK? Qui était basé à LA, OK? C'était la. L'époque là, du retour des Nordiques. Il est parti de Los Angeles pour venir chez nous pour m'interviewer sur les Nordiques. Et lui, il pensait arriver chez nous puis que ma maison, c'était nordique au complet. Là. J'ai eu de la misère à trouver un fanion des Nordiques. J'ai des souvenirs en bas chez nous dans la cave, mais j'ai pas tant d'affaires que ça des Nordiques. Mais lui, d'après moi, il était très déçu là, parce qu'il est arrivé chez nous. Puis comme je te dis, j'ai eu de la misère à trouver 2-3 gilets, 2-3 calottes à y montrer. Il était parti de LA pour venir me rencontrer en pensant que j'étais beurré nordique à grandeur. Il y a pas longtemps, Steph Turcot est allé chez le président du fan club du Canadien. Comment il s'appelle? Carl. J'oublie son nom de famille. Il vit sur la rive sud. Lui, son sous-sol, c'est Canadien au complet, là. Mais chez nous, c'est pas tout à fait comme ça. C'est beaucoup plus discret.
Non, je comprends, mais je fais juste m'imaginer dire à ma blonde, chérie, dans la cuisine, oui. J'aimerais ça mettre. Un poster du fanion de la 24e Coupe des Canadiens ou
des bancs d'utilisés.
La discussion ne durerait pas très longtemps.
C'est vrai. Mais ben, tu vois que, regarde, ben, moi, c'est qui mène chez nous, tu penses, moi, Joe? Qui mène, tu penses, chez nous?
Ben, c'est José. Oui. Non, c'est José. C'est juste là-dessus, elle t'a donné du lousse.
Elle me laisse un petit peu de lousse, des fois. OK. Entre autres, sur ces affaires-là. Bref, Nico, tu m'as envoyé le cover du Sports Illustrated il y a 30 ans. Et ça parlait de la folie des cartes de sport. Et des autographes, les balles signées, puis les articles de sport signés, ce qu'on appelle le memorabilia. Puis il disait que les joueurs étaient complètement dépassés par cette tendance-là. Puis ça m'a rappelé l'époque, il y a 30 ans, où, tu sais, la grosse époque des cartes d'hockey. T'as-tu connu ça, Joe? C'est les cartes Upper Deck.
Ben oui, quand j'étais jeune, au Peachy, Upper Deck.
Ils en ont produit beaucoup trop, ce qui fait que ça n'a pas de valeur aujourd'hui. Des fois, des gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey, j'ai telle carte de Matt Sundin ». De 1991, combien ça vaut? Ça vaut 15 cents. Ils en ont beaucoup trop produit à l'époque.
Mais toi, en as-tu de valeur? Ou?
J'en ai, parce que je collectionne les plus vieilles maintenant. Tu sais, je collectionne les cartes des années 50,
maintenant,
60.
Tu collectionnes ça là?
Ben, sais-tu pourquoi j'avais pas les moyens quand j'étais plus jeune? Tu sais, tu payes une carte, des fois, mettons 100 piastres. Ça peut monter vite, des fois. Là.
Ça t'apporte quoi?
C'est mon côté nostalgique, Joe, collectionner ça. Vois-tu, je me suis acheté... cet hiver, une carte de Bobby Hull avec les Blackhawks. Je pense que je l'ai payé 95$, OK? C'est une carte de 1965 ou à peu près. Mais Bobby Hull, c'était le joueur préféré de mon père. Mon père qui est décédé, puis il m'en a tellement parlé. Fait que quand j'ai la carte, la vraie carte, j'ai comme l'impression d'avoir un petit morceau d'histoire entre les mains. Comprends-tu?
OK. C'est mon côté nostalgique. Mais tu regardes-tu souvent? Ou?
Souvent. J'ai ça dans le salon chez nous.
Le YouTube aussi.
J'y regarde. Oui, mais des cartes, c'est comme un objet historique. T'sais, tu touches à l'histoire pour vrai, Joe. Tu y touches pour vrai. Ça a été produit pour vrai dans ces années-là.
Moi, j'avais
gardé... la collection, tu comprends ou tu comprends pas. Je respecte ceux qui...
Moi, j'en avais gardé une coupe. Ouais. Que j'ai égaré. J'ai aucune idée son où, mais okay. Entre autres, j'en avais une de Luc Robitaille.
OK.
Qui était une carte, le Prospect, ou je sais pas trop quoi, qui valait à l'époque, mettons, 20-25 piastres. J'ai aucune idée combien ça vaudrait aujourd'hui, mais tu sais, j'étais pas capable d'acheter là, les étuis là, en gros plastique rigide pour la protéger.
Ouais, ouais. Moi, j'ai ça.
je blague, là, mais je respecte le fait que tu collectionnes.
Non, mais t'as le droit de juger
mais
ça.
Mais c'est pas quelque chose, moi, qui, ouais. qui m'allume la collection, là.
Mais sérieusement, je pense que ça vient un peu de mon intérêt pour l'histoire. Tu sais, je collectionne aussi les vieilles séries de la NFL des années 60, mais ça, c'est une autre affaire. Mon père m'a tellement parlé de Johnny Unitas, puis de Bart Starr, puis de... C'est okay. Je vois ça un peu comme des morceaux d'histoire un peu. Mais je comprends ceux qui trouvent ça complètement débile. Je peux comprendre aussi. Mais tu sais, il y en a qui collectionnent les vieux albums vinyles. Tu connais François Garriépy, sûrement?
Ben oui. Ben oui.
Lui, il collectionne les vieux albums vinyles. T'sais, c'est un peu la même maladie.
Mais l'album vinyle, tu peux le sortir, l'écouter.
Les cartes
la
aussi.
La spécificité du son.
Regarde,
du...
Tu repenses à comment c'était le hockey dans ce temps-là. Puis le rituel d'ouvrir un paquet de cartes de hockey avec une gomme dedans. T'as-tu connu ça?
Ben oui.
Je suis très nostalgique. Pour vrai, je suis très,
la gomme
très,
qui
très...
était pas mangeable.
C'est pas grave.
Au bout de 20
c'était
secondes,
c'était dur, c'était le moment qui était important, Joe. Puis je le vis encore, tu sais, j'achète des cartes à mon fils. J'ai acheté les cartes recrues d'Austin Matthews, de McDavid, de...
Mais tu sais, il y a un parallèle intéressant à faire avec ouais. ce pourquoi je t'écœure un peu depuis ouais. deux, trois jours. Tu parlais ouais. de l'aspect ludique, les jeux, les ci, les ça.
J'étais un gars de merveillement
c'est quand
là-dessus.
Mais ben là-dessus, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. C'est carrément ça. Parce que le plaisir d'ouvrir un paquet de cartes quand t'as 9, 10, 11, 12 ans, OK. Mais ben 42 ans...
Mais c'est-tu quoi, tu me fais allumer? Je
ça
pense
me fait penser à ouvrir du courrier, là, ouvrir du paquet, un paquet de cartes.
Ah non, pas moi.
Je pas tard.
Mais je pense que c'est la relation père-fils qui... Tu sais, je veux pas faire de la psychologie à 25 cents, mais je pense que c'était ma relation père-fils.
Ben, c'est ça. Ben, tu l'as mentionné déjà.
C'est mon
dans
père
deux,
qui m'a amené après l'école m'acheter 5 paquets de cartes d'hockey à 35 cents.
Ben,
il pouvait pas avoir plus beau moment que ça. Mm. Puis on dirait que je cherche constamment à...
Je comprends.
À retrouver ça, tu sais.
Là-dessus, je trouve ça beau.
Oui, non, c'est ça. Mais c'est un peu débile. Tu sais, je te l'accorde. Quelqu'un qui me dit, Landry, t'es débile.
Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Je trouve pas ça débile. En passant, j'ai reçu un texto en deux mots qui disait « Oublie-toi ». Ça, c'est ma blonde sur la possibilité de mettre quelque chose de sport.
Ah
en
oui,
cuisine.
OK. Même ouais, pas ça, une affaire de Patrick Roy. Un beau chandail autographié de, je sais pas moi, de Brett Kulak. Brett Kulak autographié dans ta cuisine, non? Ça passe pas,
Brett
ça?
Brett Kulak, wow! Je pense qu'il faut vraiment s'arrêter. Ouais, en fait. Ah, Benjamin, 13h33, on revient.